Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Et on se retrouve aujourd'hui pour Histoire de savoir et on va parler d'un événement qui a eu lieu il y a assez longtemps, mais pas si longtemps que ça. On va en parler avec vous, Peter Lagro, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va repartir au 17 juillet 1950. Et là, on a un prince royal, le prince royal Baudouin, qui prête serment au Parlement et un cri « Vive la République !» Et c'est ce qu'on entend dans tout le Parlement. Et on va l'attribuer à Julien Lahaut, qui est un député communiste. Julien Lahaut sera assassiné un mois plus tard. Et c'est comme ça que pourrait commencer cette émission, histoire de savoir. Mais finalement, Peter Lagro, d'abord, vous allez nous dire qui vous êtes.
Donc, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université libre de Bruxelles.
Et donc, voilà, finalement, cette histoire, elle commence comme ça, mais on oublie un tas de choses, et entre autres, le contexte. Que s'est-il passé le 17 juillet 1950 Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on a un prince royal qui prête serment?
Oui, à l'échelle de l'histoire politique belge depuis 1830, on n'a probablement jamais été aussi près d'une vraie implosion, voire explosion du climat politique en Belgique. On n'a probablement jamais connu une telle polarisation. Et cette polarisation demande de l'explication. Polarisation qui commence par une violence politique très inhabituelle en Belgique. Des violences politiques qu'on a eues, mais c'était plutôt dans des protestations sociales, dans des grèves. Ici, c'est vraiment autour d'une thématique politique qu'on voit des manifestations violentes, avec des morts, à Grasse-Berleur.
Et donc, en 1950, donc là, oui. On est vraiment cette année-là, quoi.
Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre qu'on en soit arrivé là? Ça nous oblige finalement de remonter au moment de l'invasion allemande en Belgique, où il y a une rupture et une crise constitutionnelle extrêmement grave. En gros, normalement, le chef de l'État et le gouvernement, ils agissent en concertation. Et là, pour la première fois, il y a une divergence. Le roi Léopold III, qui est chef des armées, décide de capituler sans prendre l'avis de son gouvernement, contre l'avis de son gouvernement. Et donc là, on a une rupture constitutionnelle, un roi qui capitule et un gouvernement qui refuse cette capitulation. Et donc, à partir de ce moment-là, on a finalement un différend, une crise constitutionnelle en Belgique qui mettra plus de 10 ans à être résolue.
Donc en fait, le roi ne peut pas finalement décider de lui-même de capituler en cas de guerre.
En tant que chef des armées, il peut le faire, mais par rapport à la pratique constitutionnelle, la pratique politique belge, voilà, c'est la première fois qu'il y a une rupture totale entre le gouvernement et le souverain. Même si c'est plus compliqué que cela,
oui,
c'est peut-être plus une question de timing qu'une question d'appréciation sur le fond. En effet, le gouvernement qui partira en exil, qui suivra finalement le scénario de la Première Guerre mondiale, l'idée la France va tenir, on se réinstallera comme pendant la Première Guerre mondiale au Havre et on continue la guerre aux côtés des Français et des Britanniques, ben, ce qui n'avait pas pu imaginer le 18 mai, c'était que la France aussi allait capituler. La déroute totale de la France va plonger ses ministres dans le doute aussi et dans la crise. Finalement, ils vont atterrir à Londres au bout de beaucoup de tergiversations, de tentatives même de rentrer en Belgique. Ben, voilà, mais le moment de crise, il est là.
Il commence à ce moment-là.
Oui.
Et donc, pendant la guerre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette crise, on la sent? Est-ce qu'elle existe? Ou alors, est-ce qu'il y a une sorte de trêve pendant la guerre? Parce que vu que la Belgique est occupée et que voilà.
Non, il n'y a pas de trêve. Tout d'abord, donc, le roi, sa posture, c'est « je me constitue prisonnier, je suis solidaire de mes troupes, mes soldats sont faits prisonniers, moi aussi je suis prisonnier ». C'est une posture qui d'abord va lui valoir une très forte popularité. et une espèce de critique et de dénonciation du gouvernement qui lâchement s'enfuit alors que le roi, lui, héroïquement, il reste sur place. Une image qui, évidemment, va prendre un coup puisque le roi est prisonnier, mais dans son palais à Laeken. Il va se marier. Voilà, d'ailleurs, il va d'abord se marier religieusement avant de conclure un mariage civil. Voilà. Ce mariage-là va déjà ternir son image. Le roi, lui, ne montrera aucun regret, sera totalement intransigeant. Va pouvoir un petit peu augmenter ou rétablir son image de victime quand il sera évacué par les troupes allemandes au moment de leur évacuation. Donc là, il devient quand même un petit peu prisonnier. C'est plutôt quand le gouvernement revient. Ben, la question ne se pose pas tout de suite parce que le roi, il se trouve en Autriche, donc ils ne peuvent pas le contacter. Mais là, vont sortir les informations sur l'attitude réelle du roi qui a été tout sauf neutre. Il a bel et bien essayé de former un nouveau gouvernement de collaboration. Il a même rencontré Adolf Hitler à Berchtesgaden. Donc voilà, le contexte là devient très très différent. Autre élément absolument crucial, le gouvernement belge est un gouvernement en exil accueilli par la Grande-Bretagne. D'abord la France, puis la Grande-Bretagne vont condamner l'attitude du roi comme une trahison. Et c'est vrai, des soldats britanniques et français ont débarqué en Belgique pour aider à la défense du territoire, la capitulation du roi. Et donc le retrait unilatéral de l'armée belge va mettre ces unités militaires françaises et britanniques dans une très très mauvaise posture. Donc il y a une haine féroce de la part de Paul Reynaud en France. Mais bon, ok, la Troisième République sombre et n'est plus là. Mais du côté des Britanniques, il y a vraiment une haine féroce contre Léopold III que des diplomates britanniques n'hésitent pas à décrire comme un fasciste.
Ah oui, carrément.
Et donc, pour eux, en effet, la Belgique a toujours été un peu un vassal britannique. Dans le contexte de l'après-guerre, la Belgique est quand même libérée par les troupes britanniques et américaines. Ce gouvernement un peu sous tutelle, pour les Britanniques et les Américains, le retour de Léopold III est inenvisageable. Le retour de ce fasciste. Donc voilà, se crée là aussi un contexte international un particulier. Quand le roi est libéré en Autriche, à l'été 45, il dit « Bon, très bien, je reviens. »
« J'arrive. »
« J'arrive. » Et à ce moment-là, se pose la question « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et ce qui se passe à ce moment-là sera très, très lourd de conséquences. Finalement, il y a, une grande inquiétude du côté du Parti catholique, qui n'est pas encore devenu PSC, qui va se refonder en décembre 1945 pour s'appeler Parti social-chrétien. D'ailleurs, assez intéressant, Parti social-chrétien en français, Christliche Volkspartei, Parti populaire en irlandais. Et ce côté Parti populaire, voire peut-être à certains égards, et certainement une fois qu'on arrive à la fin des années 40 et jusqu'à l'été 50, peut-être un côté populiste. Bon, ce parti, traditionnellement, donc, en Belgique, avant l'introduction du suffrage universel, tempéré par le vote plural, donc en 1893, on introduit le suffrage universel, mais certaines personnes, en fonction de l'impôt qu'on paye, ont trois votes, d'autres deux votes. Et
certains sont plus universels que d'autres.
Le plus commun des mortels, exclusivement masculins d'ailleurs, ont un seul vote. À ce moment-là, on bascule en fait d'un système majoritaire vers un système proportionnel. La crainte étant que le Parti libéral pourrait tout simplement disparaître du paysage politique. Or, de 1830 à 1893, il y avait comme une alternance entre libéraux et catholiques. Donc, s'installe là un changement de régime politique. C'est finalement quelque chose qui est de toute actualité aujourd'hui. Les pays qui ont un système majoritaire connaissent des difficultés majeures, que ce soit aux États-Unis. En gros, l'idée traditionnellement admise était qu'un système majoritaire permettait d'éviter que les extrêmes politiques puissent vraiment jouer un rôle important. En gros, le système majoritaire servirait à éviter que Donald Trump puisse être candidat à la présidentielle. Ben, il s'est produit plein de choses qui font en sorte que le système majoritaire finit par favoriser les extrêmes.
Oui.
Inutile de revenir sur la situation politique en France actuellement, qui montre aussi la crise très très profonde d'un système majoritaire qui ne correspond plus à la réalité politique. Oui. Il n'y a plus deux grands partis en France, et s'il y a un grand parti, c'est exactement celui-là que le système majoritaire devrait exclure. Donc voilà, c'est ce qui se passe.
On a été précurseur finalement alors.
Oui, absolument, absolument. C'est assez intéressant comme changement de paradigme dans la façon dont on analyse l'histoire politique au XXe siècle. Et donc, en fait, pendant très longtemps, le scénario catastrophe à éviter, c'était la fin de la République de Weimar et l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Comment est-ce que Adolf Hitler a pu arriver au pouvoir ? Dans un système majoritaire, peut-être il ne serait pas arrivé au pouvoir. C'est parce qu'il y avait un système à la proportionnelle qui a abouti à une fragmentation du paysage politique allemand. Et du coup, le NSDAP, le parti nazi, est arrivé au pouvoir sans jamais avoir eu la majorité absolue.
Oui.
Il est arrivé au pouvoir dans une coalition. Et très vite, il a réussi à marginaliser ses alliés dans la coalition, c'était le bloc conservateur. Voilà, le système proportionnel est dangereux, fragilise la démocratie. Et quelles démocraties sont bien sorties ? La Grande-Bretagne, les États-Unis, qui avaient un système majoritaire. Donc il y a un peu cette idée, le système majoritaire permet la stabilité, permet d'exclure les extrêmes. Les systèmes proportionnels ouvrent la voie aux extrêmes.
Ouais.
Et donc là, on voit ce scénario de 1933 qui va hanter les esprits pendant une grande partie du XXe siècle. Ce qui se passe en Belgique dans la deuxième moitié des années 40 est comme une oscillation entre ces deux modèles. Un modèle majoritaire et un modèle proportionnel de coalition. Et qu'est-ce qui se passe ? En gros, depuis le 19e siècle, le Parti catholique a quand même cette perception d'être le parti légitime,
oui.
Le parti de la majorité. Nous représentons la majorité de la population belge, la majorité des Belges sont catholiques, mais surtout, nous sommes le parti très largement majoritaire dans la partie la plus peuplée du pays, c'est-à-dire en Flandre. Et donc, si la gauche est au pouvoir, quelque part, il y a quelque chose d'illégitime.
Okay.
Parce que c'est peut-être les partis qui sont majoritaires, mais toujours dans la plus petite partie du pays. Donc, il y a cette idée, logiquement, naturellement, le Parti catholique doit être au pouvoir. Avec cette crise qui arrive dans les années 30, il y a une concurrence dans le propre camp. Il y a Rex qui vise un électorat catholique,
ouais.
Et il y a les nationalistes flamands qui, eux aussi, vont venir pêcher dans le même, dans le même étang de l'électorat catholique. Donc, dans les années 30, grosse crise dans le parti catholique. Et qu'est-ce qu'on fait ? La bonne nouvelle, en 1945, c'est que Rex a été mis hors la loi, le VNV aussi. Donc, on peut dire que c'est une aubaine.
Il n'y a plus que eux, finalement.
On est à nouveau...
On est tout seul. Il n'y a pas de libéraux flamands ?
Bien sûr, il y a des libéraux flamands, il y a des socialistes flamands. Électoralement, leur position semble être rétablie. La question royale pose une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une question d'opportunité. Le roi garde une forte popularité.
Quand même.
Et donc, dire « nous sommes le parti qui soutient le roi », ça peut rapporter gros dans les urnes. Par contre, il y a au sein même du parti des voix critiques qui disent c'est un choix quelque part irresponsable. Nos grands alliés, surtout les Britanniques, pour ça, c'est même pas discutable. Et puis, c'est pas innocent comme stratégie. Le chef de l'État, c'est le garant de l'unité nationale. Hein, c'est bien la devise belge. L'union fait la force. Est-ce que, en plus, dans une démocratie, dans une constitution de monarchie constitutionnelle, ben, le roi, sa fonction est tenue à une neutralité politique. Le roi n'est pas un acteur politique comme un autre, mm-hmm. c'est le garant de l'unité. Donc, arriver à politiser la figure du roi et à faire de ses choix en temps de guerre un enjeu politique, c'est quand même un choix extrêmement dangereux. Et donc, même au sein du Parti catholique, on voit qu'il y a des modérés qui disent « ne faites pas ça, c'est mm-hmm. pas une bonne idée », et ceux qui disent « l'opportunité est trop grosse si on se profile comme le parti du roi, eh ben, on peut vraiment redevenir cette force politique majoritaire. Okay. » Et donc, à l'été 45, c'est ce qui se joue. Et donc, ce qui explique que le parti catholique claque la porte du gouvernement et part en opposition. Qui est quelque chose que le parti supporte très très mal. Parce que, puisque c'est un parti du pouvoir, naturellement un parti de gouvernement, être dans l'opposition, c'est juste pas normal. Et donc, il y a déjà une période extrêmement tendue entre l'été 45 et les premières élections d'après-guerre en février 46. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on arrive avec ce choix risqué, c'est-à-dire nous, c'est tous derrière Léopold, de gagner les élections?
Mais attendez, alors là, donc en fait, pendant 5 ans, il y a cette question qui se pose.
Absolument. Et donc pendant 5 ans, il y a des gouvernements qui s'y créent, des gouvernements de gauche sans les catholiques. Et quand ce parti catholique, qui devient PSC en décembre 45, est dans l'opposition, il est sujet à une très forte radicalisation. Il faut chercher tous les moyens de revenir au pouvoir contre, d'ailleurs, et c'est là qu'arrive aussi la guerre froide, ce bloc de gauche, libéraux, socialistes et communistes, devient de plus en plus compliqué. Et en gros, dans tous les pays européens, à partir de 47, on va dire que c'est même plus tôt, avoir des communistes au gouvernement, ce n'est plus possible.
Ok, c'est à partir de là qu'il y a une sorte de...
Voilà, donc le parti communiste en Belgique n'est déjà plus une force politique majeure, mais dans une arithmétique très très serrée entre ce bloc catholique léopoldiste et l'alliance de tous les autres, si on ne peut plus compter sur les communistes, si les communistes quittent le gouvernement, on est obligé de refaire une alliance avec les catholiques.
Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, en fait, les partis sont bilingues, en fait.
Oui.
Donc, quand vous dites que les catholiques, il y a cette question des catholiques, on parlait beaucoup de la Flandre, mais en fait, c'est tous les catholiques.
Absolument.
Il n'y a pas de scission entre...
Absolument.
Le
PSC est aussi le parti majoritaire dans les provinces rurales de la Wallonie, au Luxembourg, en Namur, en la province de Namur. Voilà,
c'est un parti, en fait.
Et c'est un seul parti. Et donc, du coup, alterne des moments de polarisation, où les catholiques se trouvent dans l'opposition contre un gouvernement dit de gauche, anti-léopoldiste, et des moments de coalition. Les moments de coalition les obligent, il faut qu'on trouve une solution à cette question royale. Mmh. Le roi, entre-temps, il n'est plus en Autriche, il est en Suisse, mais il ne regrette rien. Il écrit un testament politique où il accuse le gouvernement. Donc lui, il veut revenir sans jamais accepter la moindre remise en cause de ses choix de l'époque. Et voilà, y compris diplomates américains et britanniques qui ont quand même un rôle très important dans la politique belge. Retour de Léopold, on n'ose même pas l'imaginer. Ce qui d'ailleurs crée une dynamique assez intéressante pour les Britanniques et pour les États-Unis, qui dans le contexte de la guerre froide sont de plus en plus importants. Il y a le plan Marshall, il y a le bloc occidental qui aboutira à l'OTAN. pour eux, le parti catholique, le PSC, c'est des radicaux dangereux.
Ok.
Et c'est des gars qui veulent le retour de ce roi fasciste. Donc, quelque part, ils se reposent énormément sur l'autre grand parti qui est le Parti Socialiste et notamment sur Paul-Henri Spaak, qui est un peu pour eux le garant de la stabilité en Belgique. Et donc, même au sein du Parti catholique, on a quand même, du PSC, on a conscience que ce choix pour Léopold, ça comporte aussi un prix d'une certaine marginalisation, le fait de se rendre infréquentable dans le contexte international. Donc, il y a cette tension qui traverse le PSC lui-même, et puis, c'est quand même le camp léopoldiste, on peut dire le camp extrémiste, qui va l'emporter, avec une stratégie populiste, disant, voilà, la carte Léopold nous permettra d'enfin obtenir le pouvoir. Et donc, en juin 1949, sur cette stratégie de la polarisation, le PSC va gagner les élections. Ils vont obtenir 43% des votes, mais ce qui leur permet d'avoir la majorité absolue dans la Chambre et dans le Sénat. Donc, voilà.
C'est bon.
C'est bon, on a tout gagné. On fait revenir le roi. Mais on fait revenir le roi. Reste quand même le petit souci, ils n'ont eu que 43%
oui, c'est ça.
Des votes. Donc, on va faire un référendum. Or, le référendum, ça n'existe pas dans la Constitution belge. C'est pas prévu.
Donc c'est le fait de demander en fait l'avis de la population.
Voilà, donc on est une démocratie parlementaire, on est une forme de démocratie indirecte. Les citoyens votent pour des parlementaires qui, pendant 4 ans, vont les représenter. Et voilà, il y a quand même une forte crainte de la démocratie directe. Ben, le peuple, il peut être emporté par ses passions. Donc, voilà, la démocratie indirecte, c'est la pierre angulaire de la politique belge. Et d'ailleurs, de la politique britannique aussi. Ce n'est qu'en France, où le référendum aura été utilisé par Napoléon III, en Allemagne, où un Adolf Hitler va beaucoup utiliser le référendum, plutôt le plébiscite, où il fait valider ses choix par voilà, des plébiscites assez fantoches. En Grande-Bretagne, en Belgique, c'est l'idée de la démocratie parlementaire. On ne demande pas l'avis au peuple. Le peuple va élire ses représentants. C'est en cela, d'ailleurs, qu'il y a un petit parallèle à faire entre le référendum sur le Brexit.
Oui.
Il n'y a rien de plus anti-britannique que l'idée du référendum sur le Brexit. Parce que c'est désavouer la démocratie indirecte pour aller... Donc là, en Belgique aussi, donc, puisqu'il n'y a pas de référendum prévu dans la Constitution belge, on appelle ça une consultation populaire.
C'était ça, la consultation populaire.
Qui, du coup, n'est pas contraignant. Mais ça montre quand même que, avant de faire revenir Léopold, le PSC au pouvoir préfère prendre quelques assurances supplémentaires.
Mais s'ils font ça, c'est qu'ils sont persuadés qu'en fait, le peuple va les suivre.
Oui, et ils ont raison.
Mais ils ont raison à quel pourcentage ?
Voilà, là où ils n'obtiennent que 43% aux élections législatives, la consultation populaire, ils obtiennent 57%. Donc, voilà. 43, la légitimité est un peu... Ils font un bond en avant. Voilà, là, ils ont 57% pour le retour de Léopold. Donc, tout est bon, on fait revenir Léopold. Le souci, c'est que cette majorité, elle est nationale, mais si on le découpe, il y a une majorité de 72% en Flandre. Or, il n'y a pas de majorité en Wallonie et à Bruxelles. C'est-à-dire, la logique devrait être... Il ne s'agit pas d'une mesure législative, parce qu'il faut pénaliser l'avortement, oui ou non. Non, il s'agit de la figure du chef de l'État, le garant de l'unité nationale. Est-ce qu'on peut, par un référendum, par une consultation populaire, imposer la figure de l'unité nationale, qui est très largement rejetée dans une partie du pays. Et donc c'est là que se déclenche un très large mouvement de protestation qui va aboutir aux violences de l'été 50. Quand en effet, Léopold revient dans cette même obstination, sans jamais avoir fait la moindre autocritique sur ses choix de l'époque. Et voilà, quelque part, ce choix, on peut dire, irresponsable. Mm-hmm. Dès le début, dès l'été 45, faire revenir Léopold, ce roi fasciste pour tous nos alliés, était un choix totalement irresponsable. Eh bien, on finit par en payer les frais. Mm-hmm. Léopold revient, il y a des morts à Grasse-Berleur, la Belgique est au bord de la guerre civile. Et là,
on parlait d'une marche de Bruxelles. Hein.
Voilà. Oui. Et donc là, finalement, Léopold abdique. Et ça, ça crée du coup une immense frustration parmi ces populistes du christliche Volkspartei, dire mais c'est pas possible, mm-hmm. on a le pouvoir, on a la majorité derrière nous, donc c'est pas acceptable que la minorité sabote notre pouvoir légitime.
C'est dans l'autre sens que finalement la
voilà, et c'est là la grande crise. Quelque part, ils n'ont pas voulu comprendre que la démocratie, ce n'est pas le droit de la majorité à disposer de la minorité. Surtout pas quand il s'agit de la figure du chef de l'État. Non. Le parallèle avec le Brexit, c'est ben, on organise un référendum au Royaume-Uni, le pays de Galles, l'Irlande du Nord et l'Écosse. Veulent rester dans l'Union européenne et sont obligés. Il y a plein d'autres exemples. Il y a un autre exemple qui est très intéressant, c'est les référendums, le plébiscite en Silésie. Donc la Silésie est une région avec une population mixte polonaise et allemande. Mm-hmm. Au moment du traité de Versailles, Wilson dit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait de la Silésie? On va créer un État qui avait disparu, la Pologne. Est-ce que la Silésie intègre la Pologne ou l'Allemagne? Eh bien, dans ce cas précis, on va respecter la devise de Wilson, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on va leur demander leur avis. Et la règle du jeu, c'est plébiscite en Silésie, et le résultat engagera l'ensemble de la Silésie. Or, qu'est-ce qui se passe? Une large majorité de la Silésie souhaite rester en Allemagne. Or, la partie la plus proche de la frontière de la Nouvelle-Pologne, là, il y a une majorité régionale qui souhaite intégrer la Pologne. Et là, une fois que le référendum, le plébiscite est organisé, on décide de changer les règles du jeu. On dit, ben, puisque cette partie-là, la majorité est pour la Pologne, cette partie intégrera la Pologne. Donc, on change les règles en cours de route, ben voilà, c'est toujours le problème qui se pose avec finalement le mirage du référendum ou du plébiscite, c'est que c'est simple, on pose une question, on a une réponse.
Et c'est oui ou non en plus.
Et c'est oui ou non. Or ça ne marche jamais.
Mais non.
On l'a vu avec le Brexit. La question c'est est-ce que vous voulez rentrer ou sortir de l'Union européenne. Or personne n'avait même envisagé qu'est-ce que ça veut dire sortir de l'Union européenne. On sort de quel type d'accord? On rompt tous les accords, le marché commun, la Convention européenne des droits de... Voilà, quelle partie? Eh bien non, la question est très simple. Et donc là aussi, finalement, les extrémistes léopoldistes qui ont fait croire, ou qui ont peut-être eux-mêmes cru que c'était aussi simple que ça, posent la question, si on a la majorité, il revient. Ben, c'est pas aussi simple que cela à le mettre en pratique. Et donc, l'assassinat de Julien Lahaut s'inscrit dans ce contexte-là. Donc, au moment où Lahaut est assassiné,
donc c'est un mois après.
Voilà, Léopold III, finalement, dans une espèce de drame politique, doit se rendre à l'évidence. Il dit, mais mon gars, il aurait fallu arriver à cette conclusion il y a 10 ans déjà.
Oui, c'est ça, on aurait gagné du temps. Quoi.
Voilà, je pense aujourd'hui. Voilà, il n'y a plus de débat historique ou entre historiens sur Léopold III. Le retour de Léopold III n'aurait jamais dû être envisagé. Mm-hmm. Léopold III était infréquentable, était condamné par l'histoire. Donc vouloir le faire revenir, le fait que le PSC a réussi à convaincre autant de ces jeunes électeurs, de ces jeunes syndicalistes, à faire des manifestations de masse, à coller des affiches, etc., était de les pousser à poursuivre une cause qui quelque part était perdu d'avance. Heureusement que ça ne s'est pas fait. Mm-hmm. Parce que, y compris parmi les observateurs internationaux, est-ce que la Belgique emprunte la voie de l'Espagne et de Franco, un pays qui, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, s'engage sur une voie d'un régime autoritaire.
Mm-hmm. Et le fait de mettre Baudouin sur le trône, ça calme tout le monde finalement ?
Oui, et donc, certains, dont Gliner, et on dit ensuite là-haut aussi, en effet, est-ce qu'ils avaient raison ? Est-ce que ça ne plaide pas en faveur d'une république ? Pourquoi est-ce que Léopold est là ? Parce que dans une démocratie, une monarchie parlementaire, c'est par hérédité. Et là où son père Albert avait fait l'unanimité, le moins qu'on puisse dire, c'est que Léopold III ne faisait pas l'unanimité. Donc, dans un système démocratique, est-ce que c'est encore de notre époque ? Si quelqu'un, le comportement, les choix politiques de Léopold III ont discrédité la monarchie.
Oui, complètement.
Donc, il crie à ce moment-là « Vive la République !» quelque part, semble basé sur un jugement politique qu'on peut suivre. Mm-hmm. Le moment, évidemment, est peut-être pas très bien choisi. Ce n'était pas le moment d'un débat entre constitutionnalistes sur le meilleur régime politique qui convient à la Belgique ou même en général. En effet, il y a là un compromis. C'est jusqu'à boutiste léopoldiste et Léopold lui-même doivent se rendre à l'évidence que même si on a obtenu une majorité dans un plébiscite, on ne peut pas gouverner contre une minorité considérable et contre une majorité régionale. Et donc quelque part, ce pauvre Baudouin, vraiment un gamin, et quand on voit les images, il est tout maigre, tout frêle.
On a l'impression qu'il a le monde sur son dos, sur ses épaules, il est tout voûté.
Et donc il est là au Parlement, et avant même de pouvoir prendre la parole, il y a « Vive la République » et un tumulte. Et voilà, donc là, on estime que dans l'effort qui a été fait par le camp léopoldiste, d'aller vers un compromis, c'était pas tolérable. Et du coup, une grande indignation, Baudouin se fait ovationner, et on inscrit cette violence verbale, vive la République, dans d'autres violences. Et les fauteurs de troubles sont finalement les manifestants anti-léopoldistes qui refusent d'accepter le résultat d'une consultation démocratique et populaire. Donc, il y a cette idée, qui sont les fauteurs de troubles, qui sont ceux qui veulent désavouer le processus démocratique par la violence, c'est les anti-léopoldistes.
Et donc, en gros, c'est les Wallons de gauche, en très gros.
Oui, c'est notamment parce que c'est en effet à Liège que la contestation, à Liège et dans les Hainaut, que la contestation est la plus forte. Ça va en plus alimenter cette dimension régionaliste. Et donc, du coup, certains acteurs qui sont dans cette droite dure léopoldiste, mais qui sont aussi impliqués très fortement dans la guerre froide et dans des dispositifs qui sont mis en place. Et là, on est un peu dans cette contradiction qui se joue à ce moment-là. Cette droite catholique léopoldiste est infréquentable pour les alliés, mais cette appréciation est en train de basculer parce que qu'est-ce qui est pire, le Parti communiste ou les léopoldistes ? Et clairement, entre 47 et 50, il y a un basculement. Mm-hmm. Dire, mais finalement, dans le contexte international, on s'accommode très bien de Franco. Donc on pourrait, pourquoi ne pas s'accommoder de Léopold III ? Mm-hmm. Par contre, les communistes nous posent problème. Voilà. Et il y a une mise sur pied, l'organisation de réseaux dormants. En cas d'invasion soviétique, on aura nos réseaux d'anciens résistants anticommunistes à qui on fournit des armes, à qui on fournit de quoi résister à une future occupation. C'est très exactement ce qui avait été fait avant l'invasion allemande. Mm-hmm. On a réactivé des réseaux de renseignement et de sabotage de la Première Guerre mondiale. Voilà, ces réseaux Stay Behind, ben on commence à les organiser. Ce n'est pas quelque chose de très théorique, parce qu'à ce moment-là, la possibilité d'une invasion soviétique semble bien réelle dans certains milieux. Et donc là, on a des gars, on dit, là, vous disposez d'armes, vous disposez de réseaux, on vous demande d'entrer en action au moment d'une invasion soviétique, mais certains, voilà, de tête brûlée, ouais. Dans ce contexte de très forte polarisation, dire, voilà, c'est le moment d'y aller. Parce que finalement, il y a, dans le championnat politique belge, on a obtenu une grosse victoire. On a la majorité parlementaire absolue. On a la majorité écrasante dans le plébiscite. Et puis, qu'est-ce qui arrive? On a un but contre son camp, parce que Léopold ne revient pas. Donc, c'est le moment de prendre notre revanche, mm-hmm. Et d'aller plus loin. On a choisi une stratégie de la polarisation, eh ben on va aller jusqu'au bout dans la stratégie de cette polarisation. Dans l'idée, et la presse de droite, la Libre Belgique, reprend ça à son compte au moment où Lao est assassiné. On dit, bah, c'est pas très bien d'avoir tué Lao, mais quand même, c'est les autres qui ont commencé.
Mais quand même, il a un peu cherché, en gros.
C'est eux qui ont introduit la violence politique dans la politique belge. Donc, quelque part, qu'après... le symbole de ce camp-là soit éliminé, voilà, il n'avait qu'à pas commencer. Et le calcul de, entre-temps, on connaît le nom, le prénom, l'identité des assassins et des commanditaires, sont juste dans une politique de la polarisation qui a été le choix de mm-hmm. défendre Léopold III à tout prix, eh bien, on peut dire l'assassinat de là-haut est la logique ultime de cela. On va dans une stratégie de la polarisation. S'il y a plus de violence politique, voilà, comment réagiront les partisans du Parti communiste? Comment réagira? Ça nous permettra d'établir une répression extrêmement dure du camp anti-léopoldiste. Et finalement, ça nous donnera les armes de traduire notre majorité politique en pouvoir réel.
Mais est-ce que l'assassinat de Lao a été finalement le point final, l'acte final, finalement, de tout cet épisode, en fait?
En quelques sortes,
parce qu'on est presque à la fin de l'émission.
Il y a après eu des livres d'enquête, jusqu'à une enquête parlementaire, dire, mais voilà, qui a? Il n'y a pas de doute, on sait très bien qui c'est. On cherche plutôt à comprendre pourquoi est-ce que nos autorités judiciaires n'ont jamais voulu trouver ce qui était pourtant sous leur nez. Voilà, mais c'est quoi l'assassinat de Lao? C'est l'acte ultime de la question royale ou c'est un des premiers actes de la guerre froide sur... Ben, les deux sont indissociables, j'ai essayé de l'expliquer. Oui, c'est en quelque sorte l'acte final, mais je pense qu'il est très important de comprendre jusqu'à aujourd'hui la postérité de ces choix qui ont été faits. Parce que ce qui arrive à l'été 50, c'est qu'il y a un gouvernement PSC, homogène, au pouvoir, qui doit encore gouverner pendant 4 ans, sur une défaite.
Ouais.
Donc on a tout gagné, mais finalement, on a subi une énorme humiliation. Et on va dire, bon, OK, ceux au sein du PSC qui ont dit, les gars, c'est pas une bonne idée de parier sur cette stratégie de la polarisation autour de la personne de Léopold III, ils ont eu raison. Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? On n'a plus cet argument mobilisateur. Et donc là, on voit qu'on cherche de nouvelles stratégies. Une autre stratégie deviendra l'école catholique. Avec, autour de l'école catholique, les guerres scolaires, le même genre d'extrémisme. Les positions défendues pour défendre l'école catholique qui vont à un pouvoir absolu pour le pouvoir organisateur qui peut virer des enseignants divorcés, par exemple, voilà, cette politique est tout aussi jusqu'aboutiste que tout le reste. Autre thématique qui deviendra de plus en plus polarisée, en filigrane de la question royale, c'est la question de l'épuration de la collaboration. Mm-hmm. Ben, puisqu'on défend Léopold III, est-ce que, donc, on va dire, c'est la gauche qui s'acharne sur les anciens nazis ? Ce qui est faux, parce que les ministres catholiques ou libéraux ont poursuivi la même politique vis-à-vis de la répression de la collaboration, mais là aussi, on va le politiser. Et petit à petit, dans cette... Et donc, il y a d'abord cette frustration, on est au pouvoir, mais ce qu'on a promis, on n'a pas pu le faire, va aboutir à la défaite électorale de 54. Et donc là, voilà, on a tout perdu. Ah oui. Et c'est la gauche qui revient. Entre 54 et 58, là, on voit à nouveau une radicalisation, une frustration qui dévore ce PSC. Comment revenir au pouvoir ? Par la question scolaire. Et de plus en plus, par la question flamande.
Mmh, aussi.
Dire, ben, finalement, qu'est-ce qui nous empêche de gouverner seul ? Eh bien, c'est la Wallonie. Donc, le seul cadre géographique dans lequel on pourrait, nous, PSC, exercer notre pouvoir absolu, ce serait une Flandre qui a le plus possible d'autonomie. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est à nouveau un échec. Parce qu'au lieu de préparer le terrain au pouvoir absolu du PSC en Flandre, eh bien, on ouvre le boulevard au Volksunie, et dans les élections de 58, eh ben, pour la première fois, le spectre des années 30 revient. Ah ouais. Il y a une concurrence sur le même terrain de l'électorat catholique par le mouvement flamand. Et on va dire là, il y a cette stratégie, et là, on peut dire la tentation de la polarisation et la tentation d'appliquer à la Belgique un régime majoritaire, mm-hmm. qu'on a pourtant abandonné en 1893, et qui, en quelque sorte, joue presque jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu ce qu'un bar de vivre dans les tripes. Mm-hmm. Je suis le chef du premier parti, de la partie la plus peuplée de la Belgique. Donc, naturellement, j'ai le droit de former le gouvernement.
Et de faire ma note et que tout le monde accepte ma note, quoi.
Oui, et ben, après, on peut voir aussi qu'un Georges-Louis Boucher...
Il y a un petit côté comme ça aussi.
je suis le patron du premier parti, donc j'ai tous les droits. Donc voilà, et je pense, à la lumière notamment de ce qui se passe en France maintenant, c'est extrêmement intéressant.
Oui, bien sûr.
Donc, l'idée que, non, la démocratie, c'est pas le droit des majorités à disposer des minorités.
C'est vrai, c'est vraiment...
La démocratie... C'est l'art du compromis. Mm-hmm. Et on a longtemps foutu des Belges qui ont besoin de 600 jours pour former un gouvernement. Mais le principe qu'il y a une différence entre un programme électoral et un programme de gouvernement qui passe par des négociations laborieuses et longues pour créer une coalition, ben, c'est ça le propre de la démocratie. Ce qu'on constate maintenant, quelque part... Le spectre de 33, la représentation proportionnelle favorise les extrêmes. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à l'analyse inverse. Mm-hmm. Le système majoritaire permet à des fous extrémistes comme Trump de s'emparer. Ou, dans le cas de la Grande-Bretagne, eh ben, ça permet... aux anti-européens forcenés, mm-hmm. de prendre le contrôle du Parti conservateur. Et David Cameron va, quelque part, avoir recours au référendum pour faire régner l'ordre dans son propre parti. Tout cela aboutit, je pense aujourd'hui, à dire, mais le système majoritaire est devenu un danger pour la démocratie. En France, aux États-Unis, il faut essayer de sortir... du système majoritaire, ouais. Parce qu'il finit aujourd'hui, voilà, aujourd'hui en France, le système majoritaire favorise le Rassemblement national.
Bien sûr.
Et tout ce que fait Macron aujourd'hui, attention, n'est qu'une préparation de la victoire du Rassemblement national à la prochaine échéance. Donc,
ce qui est le risque,
admettre que finalement, la démocratie est une histoire de compromis. Est parmi les leçons qu'on peut retenir de l'épisode de la question royale de l'assassinat de Julien Lahaut, finalement, le système majoritaire, le choix de la polarisation aboutit à la violence politique et à l'assassinat politique.
J'aime beaucoup votre démonstration parce qu'on est parti de l'assassinat de Julien Lahaut, on a terminé avec le Brexit, avec Trump et la France, qui montre bien, donc ce qui montre bien qu'un événement n'est jamais isolé, en fait, est toujours en lien avec tout ce qui se passe autour. Il y a des répercussions même beaucoup plus loin. Alors Peter Lagroux, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. On a donc parlé de l'assassinat de Julien Lahaut, mais pas que, de toute cette contextualisation de l'époque. Merci beaucoup.
Merci.
C'était passionnant et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Cherche à se perpétuer dans le temps et dans l'espace, comme un chewing-gum, peu importe combien de fois il casse, on se le remet dans la bouche et on se remet à mâcher. Toute relation fondée sur le besoin de compagnie humaine revient à se conformer. L'état de conformité distord les vrais sentiments grâce à des techniques élémentaires de stimulation. Par exemple, la phrase « tu sais dire que des conneries et ça me donne envie de te foutre sur la gueule » devient « je te comprends mon amour ». Conserve deux choses intactes et pleines d'une énergie débordante. Primo, l'envie de pisser. Secondo, célébrer le fait que c'est un nouveau jour et que je suis vivant et que je suis avec lui. Pourquoi ça ne se passe pas pareil avec ma femme? Pourquoi est-ce que notre seule envie le matin au réveil, c'est de pisser? Il y a le verbe s'aimer et le verbe se résigner. Quand je vois comment vivent la plupart des gens autour de moi, je vois se confondre les deux termes, s'aimer et se résigner. Tous ceux qui se contentent de la vie qu'ils mènent et qu'ils répètent. L'amour est un sentiment extraordinaire et qui pourtant se répète et se répète et se répète et se répète et se répète.
Tous les endroits où j'aurais pu vivre.